Troisième essai. Art. Donnez aux tombes, aux auges et aux écuelles la grâce et l'éclat tremblant d'une romance. Apportez le clair de lune au milieu du jour, caché dans les tas de pierres luisantes. Dans la rue pavée de la ville, plantez des jardins couverts de lilas blancs. Rafraîchissez l'air de sources jaillissantes, chantant dans le square trop ensoleillé. Que la statue, le tableau, le parc et le hall, la balade, le drapeau et la fête restituent le passé, ornent le jour présent et que chaque jour soit un nouveau matin. Ainsi, l'ouvrier en blouse poudreuse discernera derrière l'horloge de la cité des cortèges de rois aériens, des vêtements d'anges, des ailes éclatantes, ses pères brillant dans des fictions glorieuses, ses enfants nourris aux tables divines. C'est le privilège de l'art de jouer ainsi son joyeux rôle pour acclimater l'homme sur la terre et plier l'exilé à son sort, et former d'un élément avec les jours et le firmament, lui enseigner à s'en servir comme de marche pour monter et vivre en intelligence avec le temps, pendant que la vie supérieure remplit le petit ruisseau de la raison humaine. Parce que l'âme est progressive, elle ne se répète jamais tout à fait, mais dans tous ses actes, elle tente la production d'un nouvel et plus grand tout. Cela paraît dans les ouvrages de l'art utile et de l'art joli, si nous faisons la distinction populaire des œuvres suivant que leur but est l'utilité ou la beauté. Ainsi, dans les beaux-arts, non l'imitation mais la création est le but. Dans le paysage, le peintre doit donner la suggestion d'une création plus belle que celle que nous connaissons. Les détails, la prose de la nature, il doit les oublier et ne nous en donner que l'esprit et la splendeur. Il doit savoir que le paysage a de la beauté à ses yeux parce qu'il exprime une pensée qui lui est chère. Et cela parce que le même pouvoir qui voit à travers ses yeux est dans ce spectacle. Et il en viendra à évaluer l'expression de la nature et non la nature elle-même, et ainsi à exalter dans sa copie les traits qui le charment. Il donnera les ténèbres des ténèbres et la lumière de la lumière. Dans un portrait, il doit décrire le caractère et non les traits, et penser que l'homme qui se tient devant lui n'est comme lui-même qu'une imparfaite image ou ressemblance de l'homme intérieur aux nobles aspirations. Qu'est cet abrégé, cette sélection que nous observons dans toute activité spirituelle, sinon l'impulsion créatrice? Car c'est l'entrée dans cette sphère illuminée où l'on apprend à communiquer un sens plus grand à de naïfs symboles. Qu'est un homme sinon la plus belle explication de la nature? Qu'est-il sinon un paysage plus délicat et plus condensé, l'éclectisme de la nature? Et qu'est sa parole, son amour de la peinture, de la nature, sinon un succès meilleur encore? Tous les fastidieux mille et maîtres cubes laissés de côté et leur esprit rendu par un mot musical ou le plus habile coup de crayon. Mais l'artiste doit se servir des symboles en usage dans son temps et dans sa nation pour communiquer ses sensations développées à ses semblables. Ainsi, le nouvel art sort toujours de l'ancien. Le génie de l'heure met son sceau ineffaçable sur l'œuvre et lui donne un charme inexpressible pour l'imagination. Autant le caractère spirituel de l'époque domine l'artiste et prend expression dans son œuvre, autant il gardera une certaine grandeur et représentera aux futurs observateurs l'inconnu, l'inévitable, le divin. Nul ne peut tout à fait exclure cet élément de nécessité dans son travail. Nul ne peut tout à fait s'émanciper de son siècle et de son pays et produire une œuvre où l'éducation, la religion, la politique, les usages et les théories de son temps n'auront aucune part. Quelque original, quelque volontaire et fantasque soit-il, il ne peut pas préserver son travail de toute trace des idées au milieu desquelles il a grandi. L'annulation même trahit l'usage qu'il annule. Au-dessus de sa volonté et de sa connaissance, il est contraint par l'air qu'il respire et l'idée dans laquelle lui et ses contemporains vivent et travaillent, de partager la manière de son temps sans savoir ce qu'est cette manière. Or, ce qui est inévitable dans l'œuvre a un charme plus élevé que celui que peut jamais donner le talent individuel. D'autant que la plume ou le ciseau de l'artiste semble avoir été tenu et guidé par une main gigantesque pour inscrire une ligne dans l'histoire de la race humaine. Ce point de vue donne une valeur aux hiéroglyphes égyptiens, aux idoles indiennes, chinoises et mexicaines, quelque grossières et informes. Elles dénotent la hauteur de l'âme humaine de cette heure-là et n'étaient pas fantastiques, mais née d'une nécessité profonde comme l'infini. Ajouterai-je que c'est à ce point de vue que toute la production de l'art plastique a sa plus haute valeur, comme histoire, comme un trait dessiné sur le portrait de ce destin parfait et superbe, suivant l'ordination duquel tous les êtres s'avancent vers leur béatitude. Ainsi vu historiquement, ça a été l'office de l'art d'éclairer la perception de la beauté. Nous sommes submergés de beauté, mais nos yeux ne la voient pas clairement. Il faut que l'exposition de quelques traits assiste et guide le goût dormant. Nous sculptons et peignons, ou nous contemplons ce qui est sculpté ou peint, comme des étudiants du mystère de la forme. La vertu de l'art est dans le détachement, la séparation d'un objet de l'embarrassante variété. Jusqu'à ce qu'une chose soit sortie de l'assemblement des choses, il peut y avoir jouissance, contemplation, mais non pensée. Notre bonheur et notre malheur sont improductifs. L'enfant vit dans une charmante extase, mais son caractère individuel et sa force pratique dépendent de ses progrès journaliers dans la séparation des choses et l'emploi de chacune séparément. L'amour et toutes les passions concentrent tout ce qui existe en une seule forme. C'est l'habitude de certains esprits de donner une abondance surpassant tout à l'objet, la pensée, le mot sur lesquels ils tombent, et d'en faire, pour un temps, les députés du monde. Ceux-là sont les artistes, les orateurs, les conducteurs de la société. Le pouvoir de détacher et de magnifier en détachant est l'essence de rhétorique dans les mains de l'orateur ou du poète. Cette rhétorique, ou pouvoir de fixer l'éminence momentanée d'un objet, si remarquable chez Burke, chez Byron, chez Carlyle, se manifeste par les mains du peintre et du sculpteur en couleur et en pierre. Ce pouvoir dépend de la profondeur de vue intérieure de l'artiste sur l'objet qu'il contemple. Car tout objet a ses racines au centre de la nature et peut, par conséquent, être exhibé de manière à nous représenter l'univers. C'est pourquoi toute œuvre de génie est le tyran de l'heure et concentre l'attention. Pour un temps, c'est la seule chose à faire valant la peine d'être nommée. Que cela soit un sonnet, un opéra, un tableau, une statue, un discours, le plan d'un temple, d'une campagne ou d'un voyage de découverte. Tout à l'heure, nous passerons à un autre objet qui s'arrondira en un tout comme fit le premier, par exemple un jardin bien planté. Et il semblera que la seule occupation valable est de disposer des jardins. Je penserais que le feu est la meilleure chose dans le monde si je ne connaissais pas l'air, l'eau et la terre, car c'est le droit et le propre de toute chose vraie, de tout talent réel, de toute qualité native, d'être à son moment la cime du monde. Un écureuil bondissant de branche en branche et faisant de la forêt un grand arbre pour son amusement, rassasie les yeux, non moins qu'un lion, est beau, suffisant, et alors là, représente la nature. Une jolie ballade entraîne mon oreille et mon cœur, autant qu'un poème épique. Un chien représenté par un maître ou une nichée de petits cochons satisfaits est une réalité non moins que les fresques d'Angelo. Par cette succession d'objets, nous finissons par apprendre quelle est l'immensité du monde, l'opulence de la nature humaine qui peut s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Mais j'apprends aussi que ce qui m'a étonné et fasciné dans la première œuvre m'a aussi étonné dans la seconde, que l'excellence de toutes choses est une. L'office de peindre et de sculpter semble être simplement initial. Les meilleures peintures nous disent facilement leur dernier secret. Elles sont d'ignorantes ébauches d'un peu de miraculeux points, des lignes et des teintes qui composent le paysage aux formes toujours changeantes au milieu duquel nous vivons. La peinture semble être pour l'œil ce que la danse est pour les membres. Quand elle a inculqué à la structure la possession d'elle-même, la légèreté, la grâce, il vaut mieux oublier les pas du maître de danse. Ainsi, la peinture me montre la splendeur de la couleur et l'expression de la forme. Et, en voyant beaucoup de peintures et un génie des plus grands dans l'art, je vois l'opulence illimitée du crayon, l'indifférence où se trouve l'artiste libre de choisir entre les formes possibles. S'il peut tout peindre, pourquoi rien peindre? Et alors s'ouvrent mes yeux à l'éternel tableau de la nature, dans la rue où se meuvent des hommes et des enfants, des mendiants et des élégantes, drapés dans du rouge, du vert, du bleu, du gris, aux cheveux longs, grisonnants, au visage pâle, au visage noir, au visage ridé, géants, nains, larges, sylphidiques, couverts et entourés de ciel, de terre et de mer. Une galerie de sculptures apprend plus austèrement la même chose. Comme la peinture apprend le coloris, la sculpture apprend l'anatomie de la forme. Quand j'ai vu de belles statues et que j'entre ensuite dans une assemblée publique, je comprends ce qu'entendait celui qui disait, quand j'ai lu Homère, tous les hommes m'ont l'air de géants. Je vois aussi que la peinture et la sculpture sont la gymnastique de l'œil, son éducation des délicatesses et des curiosités de sa fonction. Il n'y a pas de statue comme cet homme vivant, avec son avantage infini de variété perpétuelle sur toute sculpture idéale. Quelle galerie d'art j'ai là! Celui qui a fait ces groupes variés et ces divers et originaux personnages ne travaillait pas d'une manière uniforme. Voilà l'artiste improvisant lui-même, farouche et joyeux à son bloc. Une pensée le frappe, puis une autre, et à chaque instant, il change toute l'attitude, l'air et l'expression de son enveloppe mortelle. Enlevez vos niaiseries d'huile et de chevalet, de marbre et de ciseaux, à moins que cela n'ouvre vos yeux aux puissances de l'art éternel, c'est une hypocrite absurdité. La référence finale de toute production à un pouvoir primitif explique les traits communs à toutes les œuvres d'art élevées, l'intelligibilité universelle, le rétablissement de nos états d'esprit les plus saints et la religion. Si l'art qui s'y montre fait réapparaître l'âme originale, un jet de clarté pure, il doit faire une impression semblable à celle que font les objets naturels. Aux heures heureuses, la nature nous apparaît une avec l'art, l'art perfectionné, l'œuvre du génie. Et l'individu en qui les simples goûts et la propriété de recevoir l'impression de toutes les grandes influences humaines domine les accidents d'une culture locale et spéciale est le meilleur critique d'art. Quoique nous parcourions le monde pour trouver le beau, il nous faut le porter avec nous ou nous ne le trouvons pas. Le meilleur de la beauté est un charme plus subtil que ne peut jamais donner l'habileté dans les surfaces, dans les contours ou les règles de l'art. Savoir, un rayonnement de l'œuvre d'art du caractère humain, une merveilleuse expression à travers la pierre, la toile ou le son musical, des plus profonds et des plus simples attributs de notre nature. Et il est pour cette raison plus intelligible aux âmes qui ont ces attributs. Dans la sculpture des Grecs, dans la maçonnerie des Romains et la peinture des maîtres toscans et vénitiens, le plus grand charme est ce langage universel. Une confession de nature morale, de pureté, d'amour et d'espoir s'en exhale. Ce que nous y apportons, nous le remportons mieux illustré dans la mémoire. Le voyageur qui visite le Vatican et passe de chambre en chambre par des galeries de statues, de vases, de sarcophages et de candélabres, toutes ces formes de beauté sculptées dans les plus riches matériaux, est en danger d'oublier la simplicité des principes d'où elles ont jailli et qu'elles tiraient leur origine de pensées et de lois qu'il a en son cœur. Il étudie les règles techniques sur ces admirables débris, mais oublie qu'ils n'étaient pas toujours ainsi groupés, qu'ils sont la contribution de beaucoup de siècles et de pays, que chacun, sorti du solitaire atelier d'un artiste qui travailla peut-être dans l'ignorance de toute autre sculpture, créa son œuvre sans autre modèle que la vie de la famille et la douceur et le poignant des relations personnelles, des battements du cœur, des yeux qui se rencontrent, de la pauvreté, de la nécessité, de l'espoir et de la crainte. C'étaient là ses inspirations, et ce sont là les vérités qui retrouvent un home en votre cœur et votre esprit. L'artiste, en proportion de sa force, fera passer dans son œuvre son propre caractère. Il ne doit être en aucune manière troublé ou retenu par son matériel. Mais dans la nécessité où il est de se communiquer, la pierre devient de la cire dans ses mains et permet une adéquate communication de lui-même dans toute sa stature et sa proportion. Il n'a pas besoin de s'embarrasser d'une nature et d'une culture conventionnelle, ni de s'informer de la mode à Rome ou à Paris, mais dans cette maison et ce temps et cette manière de vivre que la pauvreté et le hasard de la naissance ont faite à la fois si odieuse et si charmante dans la cabine de bois dépeinte sur un coin d'une ferme du New Hampshire, dans la hutte au fond des bois, ou dans le logement étroit où il a enduré les contraintes et le sentiment de la pauvreté citadine, serviront aussi bien que toute autre condition comme symbole d'une pensée qui découle indifféremment de tout. Je me souviens que dans mes jeunes années, après avoir entendu parler des merveilles de la peinture italienne, je m'imaginais que les grands tableaux seraient de grands étrangers pour moi. Quelques surprenantes combinaisons de couleurs et de formes, une merveille inconnue, des perles et de l'or venant de loin, comme les lances et les étendards de la milice qui brillent si follement aux yeux et à l'imagination des écoliers. Je ne savais pas encore ce que j'avais à voir et à acquérir. Quand j'allais enfin à Rome et que je vis de mes yeux les tableaux, je trouvais que le génie laissait aux novices le gai, le fantastique, l'ostentation, et que lui-même passait directement au simple et au vrai. que c'était familier et sincère, que c'était le simple vous et moi que je connaissais si bien, que j'avais laissé à la maison dans tant d'entretiens familiers. J'ai fait la même expérience dans une église de Naples. Là, je vis que rien n'était changé pour moi sauf le lieu, et je me dis, saute enfant, es-tu venu jusqu'ici, traversant 4 milliers de milles d'eau salée, pour trouver ce qui était parfait devant toi à la maison? Je retrouvais la même chose à l'Accademia de Naples, dans les salles de sculpture, et encore à Rome, et devant les peintures de Raphaël, d'Angeli, de Sacchi, du Titien et de Léonard de Vinci. Quoi, vieille taupe, travailles-tu si vite sous la terre? Ce que je m'imaginais avoir laissé à Boston avait voyagé à mon côté et était ici, dans le Vatican, et encore à Milan, à Paris, et faisait de tous les voyages un ridicule moulin à marcher. Je demande maintenant ceci à toutes les peintures, qu'elles m'apprivoisent et non qu'elles m'éblouissent. Les peintures ne doivent pas être trop pittoresques. Rien n'étonne autant les hommes que le sens commun et la simplicité. Toutes les grandes actions ont été simples et toutes les grandes peintures le sont. La transfiguration de Raphaël en est un éminent exemple. Une beauté calme et bienfaisante y brille et va droit au cœur. Elle semble presque vous appeler par votre nom. La figure douce et sublime de Jésus est au-dessus de tout éloge. Et cependant, comme elle désappointe les imaginations aux fleurs vermeilles, la sensation que donne cette contenance familière, simple, au langage énergique, est semblable à celle qu'on éprouve en rencontrant un ami. Les connaissances de ceux qui s'occupent de peinture ont leur valeur, mais n'écoutez pas leurs critiques quand votre cœur est touché par le génie. Cela n'a pas été peint pour eux, mais pour vous, pour ceux dont les yeux sont touchés par la simplicité et les émotions sublimes. Néanmoins, nous devons terminer en confessant franchement que les arts, tels que nous les connaissons, ne sont qu'initiales. Notre meilleure louange est pour ce qu'ils visent et promettent, non pour le résultat actuel. Il a compris petitement les ressources de l'homme, celui qui croit que le meilleur temps de production est passé. La réelle valeur de l'Iliade ou de la Transfiguration est dans leurs signes de puissance. Ce sont des vagues ou des rides sur l'eau du ruisseau de la tendance. Des indices de l'éternel effort pour produire que l'âme trahit même dans son plus mauvais état. L'art n'est pas encore arrivé à sa maturité s'il ne va pas de front avec les plus puissantes influences du monde, s'il n'est pas pratique et moral, uni à la conscience, s'il ne fait pas sentir aux pauvres et aux incultes qu'il s'adresse à eux d'une voix sublimement joyeuse. L'art a une plus grande œuvre à accomplir que les arts. Ils ne sont que les premiers pas d'un instinct imparfait et vicié. L'art est le besoin de créer, mais dans son essence, immense et universelle, il est impatienté de travailler avec des mains infirmes ou liées, et de faire des mutilés et des monstres, comme sont toutes les peintures et statues. Son but est rien moins que la création de l'homme et de la nature. Un homme devrait y trouver passage pour toute son énergie. Il ne peut peindre et sculpter que tant qu'il le peut. L'art devrait réjouir et jeter à bas le mur des circonstances de chaque côté, éveillant chez l'observateur la même sensation de rapport et de pouvoir universel que prouve l'œuvre de l'artiste, et son plus grand effet doit être de faire de nouveaux artistes. Déjà, l'histoire est assez vieille pour rendre témoignage de l'ancien temps et de la disparition des arts particuliers. Celui de la sculpture a en réalité péri depuis longtemps. Originairement, ce fut un art utile, une manière d'écrire, un souvenir sauvage de gratitude ou d'affection. Et chez un peuple jouissant d'une merveilleuse perception de la forme, cet art enfantin fut perfectionné jusqu'à la plus grande splendeur des faits. Mais c'est le divertissement d'un peuple ignorant et jeune, et non le digne labeur d'un peuple sage et spirituel. Sous un chêne chargé de feuilles et de glands, sous un ciel aux milliers d'yeux éternels, je me sens dans un paysage divin. Mais dans les ouvrages de nos arts plastiques, et spécialement les sculptures, la création est reléguée dans un coin. Je ne peux pas me cacher que la sculpture a une certaine apparence de puérilité folâtre et de tromperie théâtrale. La nature surpasse tous nos modes de pensée et nous ne connaissons pas encore son secret. Mais les galeries sont à la merci de notre humeur et il y a un moment où elles deviennent frivoles. Je ne m'étonne pas que Newton, dont l'attention est habituellement tournée vers les planètes et les soleils, se soit demandé ce que le comte de Pembroke trouvait d'admirable dans ses poupées de pierre. La sculpture peut servir à enseigner à l'élève combien profond est le secret de la forme, combien purement l'esprit peut traduire ses pensées dans ce dialecte éloquent. Mais la statue semblera froide et fausse devant cette activité toujours nouvelle qui demande à rouler d'une chose à l'autre et est impatientée par les contrefaçons et les choses inanimées. La peinture et la sculpture sont la célébration et la fête de la beauté. Mais le vrai art n'est jamais fixe, mais toujours flottant. La plus douce musique n'est pas dans l'oratorio, mais dans la voix humaine, quand elle parle spontanément en accent de tendresse, de vérité ou de courage. L'oratorio a déjà perdu sa relation avec le matin, le soleil et la terre. Mais cette voix persuasive est en harmonie avec eux. Toutes les œuvres de l'art ne devraient pas être des actions détachées, mais soudaines. Un grand homme est une nouvelle statue dans chaque attitude et chaque action. Une femme jolie est un tableau qui rend tous les contemplateurs noblement fous. La vie peut être lyrique ou épique, aussi bien qu'un poème ou une romance. Si la loi de la création était véritablement annoncée par un homme qui en fut digne, l'art s'élèverait au royaume de la nature, et son existence, séparée et opposée, serait anéantie. Les sources de l'invention et de la beauté de la société moderne sont desséchées. Un roman populaire, un théâtre ou une salle de bal nous font sentir que nous sommes tous des indigents dans les hospices de ce monde, sans dignité, sans savoir ni industrie. L'art est aussi pauvre et bas. L'antique nécessité tragique, inscrite au front même des Vénus et des amours de l'Antiquité, fournit la seule apologie de l'intrusion de personnages aussi anormaux dans la nature, savoir qu'ils étaient inévitables, que l'artiste était enivré de la forme, passion à laquelle il ne pouvait résister et qui s'exhalait en ses belles extravagances. Mais la nécessité ne revêt plus de dignité le ciseau ou le crayon. Maintenant, l'artiste et le connaisseur cherchent dans l'art l'exhibition de leur talent ou un asile contre les maux de la vie. Les hommes ne sont pas contents d'eux. Et ils se réfugient dans l'art et expriment leurs meilleurs sentiments dans un oratorio, une statue ou un tableau. L'art fait le même effort que fait la prospérité bien nourrie, savoir de détacher le beau de l'utile, d'abattre la besogne comme inévitable et, la haïssant, passer au plaisir. Ses soulagements et ses compensations. Cette séparation du beau de l'utile, les lois de la nature ne le permettent pas. Aussitôt que la beauté est cherchée, non de la religion et l'amour, mais pour le plaisir, elle dégrade celui qui la cherche. La grande beauté ne peut plus être atteinte par lui avec la toile ou la pierre, le son ou la construction lyrique. Une beauté efféminée, prudente, maladive, qui n'est pas la beauté, est tout ce qui peut être produit. Car la main ne peut jamais exécuter plus que le caractère ne peut inspirer. L'art, qui sépare ainsi, est lui-même séparé le premier. Il ne doit pas être un talent superficiel, mais il doit sortir du plus profond de l'homme. Maintenant, les hommes ne trouvent pas la nature belle, et ils veulent faire une statue qui le soit. Ils abhorrent les hommes comme étant fades, stupides, inconvertibles, et se consolent avec des couleurs et des blocs de marbre. Ils rejettent la vie comme prosaïque et créent une mort qu'ils appellent poétique. Ils expédient les ennuis du jour et volent à de molles rêveries. Ils mangent et boivent pour exécuter l'idéal ensuite. Ainsi, l'art est vilifié. Le nom en communique à l'esprit son sens mauvais et secondaire. Il se présente à l'imagination comme quelque chose de contraire à la nature et frappé de mort dès le commencement. Ne serait-ce pas mieux de partir de plus haut, de servir l'idéal avant de manger et de boire, de servir l'idéal en mangeant et en buvant, en respirant et dans toutes les actions de la vie? Il faut que la beauté revienne aux arts utiles et que la distinction entre eux et les beaux-arts s'oublie. Si l'histoire était véritablement racontée, si la vie était noblement dépensée, il ne serait plus facile ou possible de les distinguer les uns des autres. Dans la nature, tout est utile et tout est beau. Cela est beau parce que cela est en vie, mouvant, reproductif. Cela est utile parce que cela est symétrique et beau. La beauté ne viendra pas sur commande, ni ne répétera-t-elle en Angleterre ou en Amérique les mêmes choses qu'en Grèce. Elle viendra comme toujours, sans être annoncée, croissant sous les pas d'hommes braves et sincères. C'est en vain que nous cherchons à ce que le génie réitère ses miracles d'art ancien. C'est son instinct de trouver la beauté et la sainteté dans le nouveau et le nécessaire, dans le champ et le bord de la route, la boutique et le moulin. Procédant d'un cœur religieux, il exaucera la voie ferrée, le bureau d'assurance, la compagnie des fonds communs, notre loi, nos assemblées, notre commerce, la batterie galvanique, l'électricité, le prisme et la chimie à un emploi divin, tandis que nous n'y voyons maintenant qu'un intérêt économique. L'égoïste et même cruel aspect de nos grands travaux mécaniques, moulins, chemins de fer et machines, ne vient-il pas des impulsions mercenaires auxquelles ils obéissent? Quand ces messages sont nobles et divins, un bateau à vapeur passant sur l'Atlantique de l'ancienne à la nouvelle Angleterre et arrivant au port avec la ponctualité d'une planète est un pas de l'homme vers l'harmonie avec la nature. Le bateau de Saint-Pétersbourg qui longe l'Alena sous l'influence du magnétisme manque de peu de choses pour être sublime. Quand la science s'apprendra dans l'amour et que ses pouvoirs se manieront par l'amour, elle apparaîtra comme le supplément et la continuité de la création.